de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien, et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Xi Jinping a envoyé une lettre à Jokowi concernant le 75e anniversaire de l'Indonésie. Des groupes ethniques Rohingya ont participé à la célébration du jour de l'indépendance de la République d'Indonésie. Collaboration entre l'Indonésie et le Canada sur la technologie nucléaire médicale et agricole. L'Union européenne exhorte la Turquie à arrêter l'exploration pétrolière en Méditerranée orientale. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a envoyé lundi une lettre au président Joko Widodo dans le cadre de la commémoration du 75e jour de l'indépendance de la République d'Indonésie. La livraison de la lettre a été divulguée par l'ambassade de Chine à Jakarta via des téléchargements sur la page de Facebook officielle, citant un rapport publié lundi par China Radio International. Xi Jinping, dans sa lettre, a déclaré que la Chine et l'Indonésie entretenaient actuellement de bonnes relations. Les deux parties s'attaquent conjointement à l'épidémie de COVID-19. Xi Jinping a déclaré qu'ils efforçaient ensemble avec le président Jokowi dès que possible pour vaincre la pandémie de COVID-19 et apporter une contribution positive dans le domaine de la santé et du bien-être de la population. Des immigrés birmans de l'ethnie Rohingya ont participé à la célébration du 75e anniversaire de la République d'Indonésie au centre de formation professionnelle du village de Mekandang, district de Muara Dua, dans la ville de Lok Semawe, lundi 17 août. Le coordinateur du poste Aceh Cepat Tanggap, ou ACT, M. Rosi, a déclaré que le concours avait pour but de divertir 98 immigrants de l'ethnie birmane Rohingya. En raison de COVID-19, aucun pays ne veut les accueillir, donc l'activité des 17 est une façon de divertir les réfugiés Rohingyas. Outre la participation des réfugiés Rohingyas, le concours pour célébrer le 75e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie a également réuni des responsables de la Commission des Nations Unies pour les réfugiés et ACT et d'autres équipes de volontaires dans des abris temporaires dans la ville de Loksemawe. Le consul général d'Indonésie à Toronto, M. Leonard F. Huttabarat, encourage les établissements d'enseignement supérieur indonésiens à coopérer avec le Canada pour développer la technologie nucléaire médicale et agricole. C'est ce qu'a exprimé le consul général indonésien à Toronto lorsqu'il était conférencier invité dans un webinaire sur le thème « Internationaliser l'enseignement supérieur, possibilité de collaboration entre le Canada et l'Indonésie » récemment. La fonction d'information socioculturelle de Toronto, Sturmius Theophanus Batte, a déclaré à Antara Londres lundi que le webinaire était organisé par une plateforme d'éducation en ligne, Reducate, en collaboration avec l'Association internationale des scientifiques. Le but de la tenue du webinaire est de contribuer à l'avancement de l'enseignement supérieur indonésien en encourageant une collaboration plus large avec les établissements d'enseignement supérieur canadiens. L'Union européenne demande instamment à la Turquie d'arrêter ses activités de forage en Méditerranée orientale. C'est ce qu'a déclaré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Borrell, dans un communiqué rapporté par Sputnik lundi, a déclaré qu'il avait appelé des autorités turques à mettre fin immédiatement à ses activités et avec des bonnes intentions de s'engager pleinement dans un large dialogue avec l'Union européenne. Au début d'août, la Turquie a repris ses activités de forage de gaz dans la région litigieuse, la Méditerranée orientale, que la Grèce et Chypre considèrent comme leur eau territoriale. Vous écoutez toujours le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le gouvernement saoudien serait en train de construire une installation de transformation du minerai d'uranium en matière première nucléaire, en gâteau jaune ou en urania, avec l'aide de la Chine. Le moniteur du Moyen-Orient citait dimanche le journal Wall Street Journal, selon lequel les Saoudiens ont construit une installation pour transformer l'uranium en uranium qui est une matière première pour le combustible nucléaire près de la ville de Al-Ula. L'emplacement est au milieu du désert. Le site serait tout secret, mais intéresse désormais les alliés saoudiens, notamment les pays du bloc occidental. Ils craignent que l'installation ne soit utilisée dans le cadre des efforts saoudiens pour développer un programme nucléaire pour devenir une arme. De plus, il y a 2 ans, le prince héritier du royaume d'Arabie Saoudite, le prince Mohammed bin Salman, a promis qu'il prendrait les mêmes mesures si l'Iran développait une bombe nucléaire. L'uranium est obtenu par traitement du minerai d'uranium. Plus tard, le matériau peut être enrichi avec diverses méthodes pour produire du carburant pour les centrales électriques. L'Australie a signalé lundi son plus haut pic de décès quotidien dû à la COVID-19, bien que l'État à l'épicentre de l'épidémie australienne ait déclaré que le nombre de nouvelles infections était toujours stable. L'État de Victoria affirme que 25 personnes sont décédées de la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, soit plus que le pire nombre de décès signalé le 10 août. Les autorités de l'État du Sud-Est ont déclaré qu'il y avait 282 nouveaux cas de COVID-19, presque le même que 279 cas signalés dimanche. Ces chiffres sont bien inférieurs au nombre maximal de ce quotidien de plus de 700 dans l'État de Victoria au début de la semaine. Le responsable de la santé estime que des restrictions strictes sur la COVID-19 peuvent reproduire la propagation du coronavirus. À ce jour, l'Australie compte 23 500 cas confirmés de COVID-19 et 421 décès, bien moins que de nombreux autres pays en développement. Le groupe de travail pour l'accélération de la manipulation pour COVID-19 dans la région de Raja Ampat en Papouasie-Occidentale Indonésie lundi a déclaré que la zone était revenue dans la zone verte après que tous les patients positifs de COVID-19 se soient rétablis et qu'il n'y avait eu aucune confirmation positive supplémentaire au cours des derniers mois. La région de Raja Ampat, M. Abdul Faris Umlati a déclaré à l'occasion précédente qu'actuellement, beaucoup de touristes ont visité Raja Ampat. Cependant, tous les objets touristiques n'ont pas été ouverts aux touristes. Pour éviter une deuxième vague de cas de COVID-19, le gouvernement du district de Raja Ampat a renforcé la surveillance de toutes les entrées. L'unité de police de la fonction publique a également été déployée pour discipliner les citoyens dans la mise en œuvre de protocoles de santé dans les lieux publics. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et en pour le titre, TNI et Polri doivent être impliqués dans la gestion de la pandémie. Le président Joko Widodo a nommé le chef d'état-major de l'armée nationale indonésienne au TNI, le général TNI Andika Perkasa, et le chef adjoint du commissaire général de la police indonésienne, Gatot Edi Pramono, pour devenir vice-président du comité exécutif chargé de gérer COVID-19 et de relancer l'économie nationale. Tous deux ont assumé un poste dirigé directement par le ministre des Entreprises publiques, Erick Thohir, en tant que président du comité. Le président Joko Widodo a annoncé que le Comité pour la gestion de COVID-19 et la relance économique nationale avait déterminé TNI Polri à coordonner la mise en œuvre de la vaccination de masse contre le COVID-19. Les vaccinations seront effectuées à partir de 2021. Diverses opinions ont été soulevées concernant la participation de TNI et de Polri dans la manipulation de la pandémie de COVID-19. Dans ce cas, le gouvernement a souligné que la participation de TNI et de Polri dans le comité ne prendrait pas en charge les questions économiques et l'application de la loi, mais se concentrerait sur les efforts de l'ordre public. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole présidentielle pour les affaires juridiques, Dini Purwono, dans une déclaration écrite dimanche. Dini a déclaré que la présence de TNI et de Polri dans la gestion de COVID-19 était très nécessaire, en particulier dans le but de maintenir la discipline communautaire en obéissant au protocole de santé plus intensément, largement et massivement. TNI et Polri sont également nécessaires pour aider à résoudre les problèmes techniques difficiles si cela est fait par des bureaucrates, par exemple la distribution de l'aide sociale. Elle a également expliqué qu'en se référant à la loi numéro 34/2004 sur TNI, TNI accomplit les principales tâches des opérations militaires en dehors de la guerre, notamment en aidant le gouvernement à surmonter les catastrophes naturelles, tandis que dans les règlements concernant la police nationale ou Polri, la tâche principale de Polri est de protéger la sécurité du corps et de l'âme, des biens, de la société et de l'environnement contre les troubles de l'ordre et les catastrophes. Cela comprend l'aide en respectant les droits de l'homme. De nombreux pays ont également impliqué les forces de sécurité dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, même de grands pays démocratiques. De plus, l'impact social et économique dans presque tous les pays est très mauvais. Il est nécessaire d'impliquer tous les éléments de la société pour faire face à la pandémie et à ses impacts. Encore plus pour l'Indonésie qui a déclaré la pandémie de COVID-19 comme catastrophe nationale non naturelle. Le ang denia blut ke TNI epolaki ong zui angkel ang poktang puk sumong te lampak de katastrof natural masif telke le tsunami dace le tremblemang de terre de Yogyakarta e le tremblemang de terre de Lombok e Palu. Om liur le pandemi COVID-19 ale sio nasional le kol de TNI e de poloki ala lut kontrol set pandemi e bien suk plus strategik e plus neseser. Serge Ritter, c'était le commentaire pour ce soir.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Bonsoir à tous, l'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 18 août 1945. La constitution de la République d'Indonésie a été adoptée. Après la proclamation de l'indépendance le 17 août 1945, une constitution officielle dans un pays devait être formulée immédiatement. Enfin, le 18 août 1945, un jour après la proclamation de l'indépendance, le comité préparatoire à l'indépendance de l'Indonésie a adopté la constitution de la République d'Indonésie et par acclamation a choisi et nommé Soekarno et Mohammed Hatta comme premier président et vice-président de l'Indonésie. Après la réforme de 1998, la constitution indonésienne de 1945 a été modifiée 3 fois. L'autre information est sur l'Afrique du Sud n'a pas le droit de participer aux 18e Jeux Olympiques de Tokyo au Japon le 18 août 1964. Le Comité international olympique CIO a interdit à l'Afrique du Sud de participer aux 18e Jeux Olympiques de Tokyo. C'était une forme de rejet et de critique de la politique raciste d'apartheid appliquée dans ce pays. La décision a été prise dans la ville de Lausanne en Suisse. L'Afrique du Sud a été autorisée à retourner aux Jeux Olympiques en 1992 lorsque la loi sur l'apartheid a été levée dans le pays. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement le 18 août 1971, la Nouvelle-Zélande a retiré ses troupes de la guerre du Vietnam. La Nouvelle-Zélande a décidé d'envoyer des troupes à la guerre du Vietnam en 1964 pour des raisons de guerre froide et d'alliance. Il était alors dans l'intérêt national de la Nouvelle-Zélande de lutter contre le communisme en Asie du Sud-Est. Bien que l'implication de la Nouvelle-Zélande dans la guerre du Vietnam ait été minime, elle a déclenché un grand mouvement anti-guerre du Vietnam dans son pays. Enfin, le 18 août 1971, le premier ministre néo-zélandais Kit Holyoke a annoncé devant le Parlement le retrait des troupes du Vietnam. Cette annonce a coïncidé avec le retrait des troupes australiennes de la guerre du Vietnam. Serge Ritter, c'était l'histoire aujourd'hui pour ce soir.
Semua tak pernah ada. Sesaat saja tak kau izinkan untuk buktikan semua pasti berubah. Andai saja ada kesempatan kau berikan, kita masih bersama.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter la rubrique Mon Indonésie intitulée Un an après l'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili, ou ICCPA, l'Indonésie a le potentiel d'augmenter le commerce avec le Chili. Le Chili est le seul pays d'Amérique latine à avoir un accord de partenariat économique global avec l'Indonésie par l'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili en vigueur depuis le 10 août 2019. Par conséquent, le ministère indonésien des Affaires étrangères encourage les entreprises à tirer parti de cet accord et à croître les échanges entre l'Indonésie et le Chili en général à travers la 9e édition de séminaire en ligne « Indonésie, les Amériques » sur le thème « Explorer le potentiel des affaires Indonésie-Chili » cité sur la page kamlo.go.id. La promulgation de ICCPA signifie l'élimination des droits de douane pour 7600 produits indonésiens au Chili. 78,3% des produits reçoivent immédiatement des taux de 0%. les produits indonésiens qui obtiennent d'un tarif de 0% sur le marché chilien comprennent les produits agricoles, les produits de la pêche en conserve et les produits manufacturés. L'ambassadeur d'Indonésie au Chili, M. Muhammad Ansor, qui est également présent en tant que personne ressource au séminaire, a déclaré que l'Indonésie n'avait pas encore pleinement profité de l'accord de partenariat économique global Indonésie-Chili. Les facteurs identifiés comme expliquant la faible utilisation de cet accord comprennent la pandémie mondiale et le manque d'informations et la capacité des entrepreneurs indonésiens à exporter des marchandises vers l'Amérique du Sud. Pour cette raison, la diffusion des informations et la formation des entrepreneurs sont considérés comme importants, notamment pour les micro, petites et moyennes entreprises. M. Muhammad Ansor a souligné l'importance de fournir une organisation spéciale au MPME afin de faciliter les exportations et de trier les produits et les normes appropriées. Ceci est conforme au projet de création d'une maison de commerce ou boutique indonésienne dans la région sud-américaine, qui est une collaboration entre l'Association indonésienne des entrepreneurs de détail, ou APRINDO, le ministère des Affaires étrangères et l'Agence indonésienne de financement des exportations. Selon lui, l'un des facteurs importants pour soutenir le succès de l'ouverture de ce magasin indonésien est la participation de la diaspora, soit en tant que partenaire, soit en tant qu'acteur opérationnel, pour commercialiser les produits indonésiens dans la région. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kau tahu, kau ada.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, voici le magazine culturel en produisant le Palais d'État. Pour commémorer le jour de l'indépendance le 17 août, le gouvernement organise chaque année une cérémonie d'État sur le terrain du Palais Merdeka dans le complexe du Palais de Jakarta. Cette année, les cérémonies d'État se poursuivent bien que dans des conditions limitées en raison de la pandémie de COVID-19. Dans le complexe du Palais, en dehors du Palais Merdeka, il y a un autre palais, le Palais d'État. Le Palais d'État est maintenant utilisé comme lieu pour des événements d'État, y compris l'inauguration des hauts fonctionnaires de l'État, des réunions de travail national, des congrès nationaux et internationaux et des banquets d'État. Le Palais d'État est situé dans la rue Veteran numéro 17, Jakarta Central. Le bâtiment est en face de la rivière Ciliwung, flanqué du bâtiment Binagraha et du secrétariat d'État. Ce palais est situé contrairement du Palais Merdeka, il est donc souvent surnommé le Palais Jumeau. Le bâtiment est blanc. L'architecture du bâtiment est de style européen et provient de l'art architectural grec. Il n'a pas de véranda large et ouverte comme de nombreuses maisons d'habitation à Jakarta. Il y a 5 portes et assez larges. Au milieu du bâtiment se trouve une salle à manger de style classicisme, avec des piliers de chaque côté de la pièce. Il y a 2 pavillons, à gauche et à droite, face au bâtiment principal. Ce pavillon était à l'origine utilisé comme résidence pour le personnel et les assistants du gouverneur général des Pays-Bas et est maintenant un bureau pour le personnel de maison présidentielle. Le Palais d'État a été construit en 1796 comme maison de repos à l'extérieur de la ville. Au début, il appartenait à Van Isseldijk, un fonctionnaire du Raad Van Indi, puis il est devenu la propriété de G.A. Van Bram. Lorsque l'Indonésie était sous la domination britannique, le Palais d'État a été construit avec un style architectural néoclassique. Dans ce palais, le lieutenant général Raffles, de 1811 à 1816, a vécu avec d'autres personnes importantes. En 1821, ce palais fut acheté par le gouvernement colonial néerlandais pour être utilisé comme résidence du gouverneur général s'il était à Batavia, car la résidence officielle du gouverneur général néerlandais se trouvait au palais Bogor, Java West. Parce que le palais d'État était jugé trop étroit, au 19e siècle, un nouveau palais a été ajouté dans la même zone, en particulier pour diverses cérémonies officielles auxquelles de nombreuses personnes assistaient. Ce palais supplémentaire surplombe la place Merdeka et est plus tard connu sous le nom de Palais Merdeka. Le
Le palais d'État était souvent utilisé comme lieu de séjour pour les hauts fonctionnaires du gouvernement des Andes néerlandais après avoir assisté aux réunions du Conseil des Andes néerlandais, jusqu'à l'époque du gouverneur général du bus de Gisignis de 1826 à 1830. Le palais d'État servait toujours comme résidence, bureau et lieu de l'Assemblée. En 1942, le gouverneur général Tjaarda van Starkenburg a signé un accord pour remettre le gouvernement des Andes néerlandaises aux troupes japonaises dans ce palais. Depuis lors, le palais est habité par le commandant des forces armées japonaises qui contrôlait Java et Madura. Ce palais était autrefois la résidence de plusieurs commandants de l'armée japonaise qui dirigeaient le territoire indonésien, à savoir Hitoshi Imamura, Kumakichi Harada et le général Yamaguchi. Après la proclamation d'indépendance le 17 août 1945, le président Sukarno est resté au palais d'État jusqu'à la reconnaissance de la souveraineté le 27 décembre 1949. Ce palais a également été un témoin silencieux de la signature de l'accord Lingardjati. Ensuite, il est également devenu le lieu de signature de textes de négociation entre l'Indonésie et les Pays-Bas après la table ronde. Chers amis, c'était le magazine culturel.
Dengar jelas bintang utara memanggil satu hari yang dinanti terpancar terang di bawah langit terlihat jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti sampaikan salam. Ikut bicara, sampaikan bahwa aku dalam perjalanan membawa tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Jarak tujuan terlihat dekat memandang garis batas di lautan yang membiasku kan datang sampaikan salam untuknya dari hati lalui tanah air udara kawan cama ikut bicara sampaikan bahwa aku dalam perjalanan tembang hati arungi samudra untuk menemuinya di sana di bawah aurora. Ku lalui tanah air dan udara. Aku kan datang, aku kan datang. Sampaikan salam dari hati lalui tanah air udara kau.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé. Chers auditeurs, c'était la 3e chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'indonésien. C'est un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, ce programme est une collaboration entre la Voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue et du livre du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Tugasmu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Ou en français, vous avez fini votre devoir. Cher ami, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation et un pour titre Tugasmu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. Ou en langue française, vous avez fini vos devoirs. La situation est en classe. Kevin s'est plaint à City parce que son devoir universitaire était si difficile. Bonne écoute.
Kevin, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai.
Belum, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali.
Iya, benar sekali.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire les expressions et les vocabulaires reliant au thème d'aujourd'hui. C'est Tugasmu sudah selesai. Tugasmu sudah selesai. En français, vous avez fini vos devoirs. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez me répéter. Bonne écoute. Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai. Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai. Avez-vous fini vos devoirs de la langue indonésienne? Mata kuliah bahasa Indonesia. Mata kuliah bahasa Indonesia. Cours de langue indonésienne. Tugasnya sulit sekali. Tugasnya sulit sekali. Les devoirs sont difficiles. Iya benar. Iya benar. Oui, tu as raison. Cher ami, la phrase Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali. Tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali. Ce qui signifie les devoirs des cours de la langue indonésienne sont très difficiles est une expression de l'opinion de Kevin concernant le cours qu'il suit. Pour répondre à une expression d'opinion, nous pouvons approuver ou rejeter cette opinion si vous êtes d'accord. Vous pouvez répondre par la réponse « Ya benar, ya benar ». En français, oui, tu as raison. Saya setuju. Saya setuju. En français, je suis d'accord. Ou saya sependapat. Saya sependapat. Signifie. Oui, c'est ça, j'accepte. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cette opinion, vous pouvez le dire avec une phrase pour refuser. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. En français, je ne suis pas d'accord. Ou saya kurang sependapat. Saya kurang sependapat. En français, je suis pas d'accord. Cher ami, avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour l'explication plus détaillée, écoutons encore une fois l'exemple de la conversation ci-dessous. Bonne écoute.
Kevin, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sudah selesai.
Belum, tugas mata kuliah bahasa Indonesia sulit sekali.
Iya, benar sekali.
Cher ami, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître l'avantage de la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci beaucoup d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Bicara hanya tersenyum, tak pernah kukira kau begitu cepat memikirku tanpa basa-basi. Setiap kau ada rasanya hanya ingin kau. Memikirku tanpa bahasa basi. Setiap kau ada rasanya hanya
c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie. Et bientôt, je vais vous présenter le magazine musical. Vous êtes avec moi, Audrey. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson malaise intitulée Kasih Sayang Ibu, chantée par Tiar Ramon. Cher ami, la chanson dont le titre est Kasih Sayang Ibu, ou bien en français, L'amour de la mère, créée par Effendi Arif, raconte du désir d'une personne pour sa mère très chère. Il imagine sa ville natale où il vit avec sa mère aimante. Il espère également revenir bientôt et se prosterner sur les genoux de mère. Conformément aux paroles tristes, cette chanson a un tempo lent. Kasih Sayang Ibu est l'une des chansons de l'album TPS Melayu Volume 1. C'est l'une des chansons de Deli Malay. Deli Malay est une tribu malaise qui vit à Deli Serdang, Sumatra du Nord. Bon, chers auditeurs, voici Tiar Ramon avec la chanson intitulée Kasih Sayang Ibu. Bonne écoute.
Thank you. jauh di rantau orang. Tiada serasa dulu sewaktu bersama ibu. Ku dibelai penuh kasih sayang, kasih ibu tulus dan murni. Aku segera akan kembali pada ibu yang aku kasihi. Semogalah Tuhan merestui ku bersujud ke pangkuan ibu.
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.